I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque, où on va causer, débattre, rigoler un peu, sans doute ça risque d'arriver, et nous tenterons au passage de répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser, et sans doute à celles que vous ne vous posez pas aussi, ça fait partie du deal. À mes côtés, pour remplir cet ambitieux cahier des charges, ils sont quatre. Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut Thomas.
Lélo Jimmy Batista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
Anaïs Bordage, bonjour Anaïs.
Salut.
Et Perrine Quinson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Les séries tirées de faits réels, la sélection de Cannes et la bonne santé côté finance du cinéma de genre, ce sont les thèmes de ce 8e Nos Ciné Club et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, ou YouTube plutôt, devrais-je dire, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Premier sujet du jour. S'inspirer de faits réels, c'est plus qu'une habitude, c'est un grand, grand classique au cinéma, à la télévision, mais force est de constater qu'en ce moment, nous sommes plutôt gâtés en la matière avec la démultiplication des plateformes. Il faut bien trouver des territoires à développer en série et le réel s'y prête tout particulièrement. Deux exemples au hasard dans l'actualité récente, Waco chez Paramount, je m'en étrangle, de joie, et The Horror sur Amazon Prime, deux tentatives totalement différentes, mais tout à fait enthousiasmantes. Et je vais passer la parole sur ce sujet à Jimmy Batista.
Alors, c'est The Terror, pas The Horror, mais
j'ai dit The Horror.
Tout va bien, tout va bien
The
se passer.
The Terror, oui, parce que c'est tiré et de Terreur de Dan Simmons.
Tout à
fait. Je me rattrape, hein, tu vois, comme je
et
peux.
Ouais, 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 clac, clac. Ouais, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez marrant, parce que cette année, en 6 mois, il y a eu une espèce de saut qualitatif absolument dingue dans ce genre de série, justement, parce que ça a commencé très, très mal. C'était pas encore en 2018, je crois que c'est encore en 2017, c'était peut-être en novembre, décembre, il y avait Manhunt, une à Bomber sur Netflix, qui est une catastrophe, quoi. Enfin, pourtant, qui est une des meilleures histoires. Enfin, c'est un truc qu'on ne peut pas rater normalement.
Moi, je n'ai pas détesté.
Bah, moi, j'ai trouvé ça assez naze. Déjà, la réal, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment. On aurait dû une 22e saison de New York Police Judiciaire. Quoi.
C'est vrai
assez,
que de ce point de vue-là, c'était exactement
après, j'ai
ça.
De mettre tout sur le profiler. Et puis, bah, surtout, moi, je sais que je préfère un film médiocre avec une fin réussie. Et là, c'est un truc moyen avec une fin vraiment très mauvaise. Enfin, c'est vraiment. Je ne comprends pas trop où il va en venir. Et le réal, c'est le mec qui avait fait déjà. Il a fait pas mal de Doctor House, je crois. Je sais pas son nom. Il avait fait Quarry aussi, qui était une bonne idée, mais qui était ratée également. Et, donc voilà, de partir de ça et d'arriver ensuite à Waco, qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre non plus, mais qui est plutôt réussi. Et déjà, qui est très chouette déjà, visuellement. Et puis en plus, bon, il y a un truc qui est bien, c'est que moi, c'est une histoire que je connaissais bien, parce que comme je suis une personne âgée, j'ai suivi le truc à la télé.
Quand Jimmy a 70.
Oui, 78 ans. Et en fait, le fait de prendre, ils sont basés sur deux bouquins, un bouquin écrit par un survivant et un autre écrit par le chef des négociateurs du FBI. Et donc on a des points de vue qui sont un peu différents et en plus qui vont taper sur des aspects pas forcément très romantiques, enfin donc un peu, enfin pas forcément comment dire des choses très racoleuses quoi.
Oui.
Et bon après il y a plein de défauts aussi. Il y a plein de gens qui sont notamment qu'on un peu critiqué la prestation de Taylor Kitsch dans le rôle de David Koresh qui est un peu c'est quand même un gourou de secte qui a donné quand même dans le viol et l'inceste des choses comme ça quoi et là il est limite sympa quoi donc c'est un peu puis il a ce truc
peut-on être un gourou et être sympa, c'est une vraie question.
Oui, il faut être quand même un minimum quoi, mais ce que là je veux dire il manque un aspect, enfin je sais pas si les autres gens l'ont vu, j'aimerais avoir l'avis là-dessus parce que moi je trouve qu'il manque quand même un truc au personnage quoi, enfin voilà quoi.
Anaïs, tu hoches la tête avec vigueur. Je suppose que tu veux rajouter quelque chose.
Oui, non. Enfin, moi, j'ai pas fini la série parce que justement, je trouvais que c'était assez basique en termes de réal. Et effectivement, malgré le casting incroyable, je trouvais qu'il y avait pas grand monde qui se démarquait vraiment. Et pareil, je connaissais déjà assez bien l'histoire, donc j'ai pas trouvé un grand intérêt. Et effectivement, Taylor Kitsch est vraiment pas trop terrifiant, quoi.
Ah non, pas du tout.
Justement. Il était mieux dans Battleship.
Il est très bien dans Battleship.
De Battleship.
Il est très bien parce que c'est le meilleur film de l'histoire, tout simplement. Voilà.
D'accord. Non, merci. Très bien, très bien.
Sur les bases, quoi.
Périne.
Oui, non, je parce que pour le coup, je débarque un petit peu de nulle part dans le sens où je n'ai pas vu Waco et je n'ai pas vu The Terror, mais il y a beaucoup de séries en effet qui sont inspirées.
Horror, je crois.
Bon, je sais plus. Vous me perdez.
Enfin, je suis désolée.
Mais voilà, il y a beaucoup de séries en effet qui sont évidemment inspirées de faits réels. Moi, je repense à une récente qui a déjà eu 3 saisons que j'aime énormément, qui est Narcos en soi. Narcos qui était basée donc les 2 premières saisons sur la vie d'Escobar. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que justement, les 2 premières saisons sont, enfin, la première particulièrement est très très réussie, la deuxième un tout petit peu moins, puis la troisième est pour moi le vrai chef-d'œuvre de Narcos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, je pense que d'un seul coup, quand on a le personnage d'Escobar, c'est un personnage qui est fascinant, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Escobar, c'est synonyme de drogue, c'est synonyme de cocaïne. Enfin, tout le monde sait qui est, tout le monde a un avis sur Escobar. Et en fait, on est presque gêné, comme j'ai l'impression que vous l'êtes avec Waco. C'est comme vous connaissez déjà le fait divers, comme vous connaissez déjà l'histoire, il y a un petit côté, ben, d'une part, j'apprends pas forcément grand-chose, et d'autre part, finalement, la distance avec qu'on peut prendre, la liberté qu'on peut prendre par rapport à l'événement, elle est très limitée en réalité. Et c'était le cas avec Escobar en réalité, c'est qu'on pouvait pas prendre vraiment tellement de distance avec les faits réels parce que il y aurait plein de gens qui font, bah non, ça s'est pas tellement passé comme ça. Et donc voilà, là où on arrive à la saison 3 de Narcos, où on est sur le cartel de Cali, qui est beaucoup beaucoup moins connu finalement que qu'Escobar lui-même, ben la série se permet d'avoir un vrai angle, de choisir un personnage extérieur pour raconter cette histoire, enfin extérieur mais intérieur à l'histoire, mais qui fait pas complètement partie du cartel. On prend des libertés totales avec ce qui s'est réellement passé. Et ce que je trouve, d'un seul coup, on rentre dans une vraie dramaturgie. On a vraiment une idée de raconter quelque chose où on se fait plaisir en termes sériels. Et je trouve que c'est la difficulté quand on fait une série à partir de faits réels, c'est à quel moment on peut s'éloigner de la réalité de l'affaire et qu'on peut se permettre de raconter une histoire, donc avec ce que ça implique d'irréel, de distance avec la réalité. Et c'est ça qui moi m'intéresse, je me pose toujours cette question là et je trouve que Narcos, ils avaient trouvé la bonne distance dans la troisième saison, là où ils étaient embêtés avec Escobar dans les 2 premières, comme je pense à Waco sont embêtés avec ce personnage que tout le monde connaît.
Il y a quand même des partis pris qui sont pas mal, quoi. Mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui repoussent sur le perso et qui font que des gens comme toi peuvent décrocher ou peuvent, moi je connais beaucoup de gens qui ont vu les 2 premiers, qui ont arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas à croire en personnage tel qu'il est joué, quoi.
Et puis aussi parce que c'est le prélude, alors que le siège commence à partir du troisième, donc du coup il faut un peu rentrer dedans avant que vraiment le cœur de l'action.
Puis il faut accepter aussi que le survivant soit le frère Macaulay Culkin, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a Michael Shannon qui a une scène très difficile où il sourit et il galère,
ça fait plaisir quand même de le voir sourire.
Mais sinon après pour The Terror, pour le coup c'est vraiment comme ce que dit Perrin, là on est vraiment dans un truc, parce que ça part vraiment de faits réels, c'est l'exposition Franklin, donc ça se passe en 1845, il y a deux bateaux de bateaux anglais qui partent pour découvrir le passage du Nord-Ouest et qui en fait disparaissent, quoi, et on sait vraiment pas ce qu'ils sont devenus, enfin on l'a retrouvé, les épaves,
il y a 2016 comme ça, donc on en sait un petit peu plus,
voilà, quoi. Et en fait la série elle est basée sur le roman, donc comme tu as dit, de Dan Simmons, La Terreur, et qui en fait prend vraiment les faits réels de manière très très précise, quoi, mais qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé par des pistes un peu fantastiques, surnaturelles, voilà. Et donc là c'est vraiment l'adaptation du truc tel quel. Ils ont un peu ajouté quelques petits trucs, je crois, moi j'ai pas lu le roman, mais
ils ont rajouté quelques éléments des choses qu'on a appris depuis, notamment le fait qu'il y a eu des cas de cannibalisme visiblement au sein de l'équipage, fois qu'ils étaient coincés dans les glaces, que le fait que les cargaisons aient été abîmées, que les boîtes de conserve leur aient filé à tous une espèce de maladie horrible.
C'était vrai le truc de l'intoxication.
Ils ont retrouvé, une fois qu'ils ont retrouvé les bateaux, ils ont retrouvé aussi plusieurs tertres où il y avait des corps enterrés, et ils ont pu en analysant retrouver des cas d'intoxication.
Pour le coup c'est vraiment, moi je suis hyper enthousiaste sur cette série parce que c'est vraiment, en plus c'est déjà une série tout genre confondu, c'est vraiment une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps, mais en plus là, enfin sur ce créneau là c'était un peu c'était impossible de faire un truc aussi bien, quoi. En plus il y a un mélange, pour le coup pour moi c'est vraiment le fantastique total, quoi, comme le journalisme total qui est assez américaine.
Ton game d'habitude.
Voilà, exactement. Là, c'est vraiment, ça va de choses hyper très enjouées, Jules Verne, quand ils sont en train de se promener sur la glace. Il y a un côté un peu enfantin et tout. Et à la fois, on a des trucs, enfin, il y a quasiment aucune scène où il n'y a pas un minimum de tension, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a même des trucs ultra flippants alors qu'il ne se passe rien de. Je sais qu'à un moment, ils rencontrent des Esquimaux sur la banquise. Il y a les Esquimaux, on dirait des gros nounours avec leurs trucs. Ils sont totalement inoffensifs. Le mec en face, il n'a pas mangé depuis 10 jours. Tu dis, il va rien se passer, quoi. Et en fait, il y a un suspense de malade, quoi.
Ouais, c'est très
inquiétant. Ou alors, il y a, enfin bon, sans spoiler, hein, mais il y a un moment, une scène de pendaison qui part complètement en couille, alors que c'est un truc de cour martial hyper codifié et tout. C'est vraiment super, quoi. Puis il y a de super personnages. Bon, j'ai pas retenu le nom des acteurs, qui sont tous très très bons, mais je les connais pas forcément. Mais je sais que le
celui qui fait. Jared Harris, le capitaine, c'est Jared Harris qui jouait dans Mad Men, dans The Crown.
Et enfin voilà quoi, il y a vraiment moi je trouve vraiment super. En plus il y a plein de trucs qui vont à contre-pied de tout ce qui se fait en ce moment en termes d'horreur un peu. Il y a pas de jumpscare, il y a très peu de musique finalement. Voilà.
C'est assez lancinant comme ambiance. Anaïs, tu es enthousiaste ou pas?
Je voulais rebondir sur ça parce que je pense que c'est ça qui est intéressant dans les séries basées sur des faits réels, c'est quand ils arrivent à peut-être prendre quelque chose de manière différente. Et donc là, justement, ils arrivent à jouer sur les codes de l'horreur et à faire quelque chose qui est rarement vu à la télé. Ils font beaucoup mieux que The Walking Dead, même en termes de gore, c'est assez impressionnant. Et par exemple, je pensais à American Crime Story et notamment la première saison sur O.J. Simpson. Où c'est un événement que tout le monde a suivi à la télé, tout le monde connaît les moindres détails, donc a priori c'était risqué de faire une espèce de reproduction scène par scène de tout ce qu'on avait déjà vu à la télé, mais il réussit à rendre ça bien aussi en montrant des choses sous un angle nouveau, notamment sur l'avocate qui avait été extrêmement... malmené par les médias à l'époque, qui était extrêmement sexiste. Et là, en fait, il y a un épisode qui lui est consacré. Donc, on voit un visage qu'on n'avait pas vu à l'époque de cette femme-là. Et donc, en fait, il arrive à prendre des choses qu'on connaît déjà, mais à les montrer sous un angle différent. Et je pense que c'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangé avec Waco, c'est que j'avais pas l'impression de voir ça, ce pas de côté. Mais en même temps, j'ai pas fini, donc je peux pas.
Juste côté horreur, pour l'info, c'est écrit par un mec qui s'appelle David Kashganich et qui est en train d'écrire les scénars des adaptations de Suspiria. Et cimetière. Donc bon, voilà,
c'est possible.
C'est plutôt de bon augure, même si j'y crois pas des masses.
Un bon cimetière au cinéma, ce qui nous changera de
celui de Marie Ambert.
Pardon,
exactement.
C'est un chef-d'œuvre.
À cause de la BOD Ramones, certainement. Daniel, tu es bien silencieux.
Oui, j'étais silencieux, mais en fait,
tu écoutais avec passion.
Je me suis fait voler mon intervention par. Mais avec brio par ma voisine.
Par Anaïs.
En fait, American Crime.
Tu voulais parler d'American Crime Story.
American Crime Story m'a marqué parce que il y avait une vraie proximité en fait. C'est que Waco, il y avait quand je l'ai vu quand j'étais gamin, il y avait un côté genre presque ésotérique, genre ok ils se sont flingués et tout ça. Alors que American Crime Story était vraiment ancré dans les infos que je regardais et dans les débats que j'avais avec mes parents. Et je me souviens précisément du moment où mon père il m'a dit ils ont bien fait de la quitter, tant mieux. Et pour une fois qu'il la quitte, et cette phrase m'a marqué parce que ensuite on en fait des séries, quoi. On en fait des séries de l'absurdité, puisque c'est ça qui est le brio d'American Crime Story, c'est que d'un truc qui est quand même assez dramatique, d'une situation ultra tendue, d'un truc qui a complètement cristallisé les passions aux États-Unis, tout d'un coup d'en faire un truc qui a à la fois la distance, mais en même temps l'ironie, en fait, toute l'ironie maîtrisée par les personnages. Je pense que le personnage de Kay Sterling, qui joue un des avocats, qui de montrer ce que c'est qu'une affaire qui, normalement, c'est du tout cuit, normalement. C'est ça l'idée de American Crime Story. C'est que normalement, c'est facile et de montrer que c'est une galère. Y a un côté très affaire perdue, très zodiaque, en fait, très... Memories of Murder, si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire, c'est l'échec programmé. Et je trouve que quand tu as l'échec programmé, alors Mindhunter, tu vois, qui lui.
Ah, justement, on a une question parmi nos auditeurs qui nous demande notre avis sur Mindhunter, justement.
J'ai adoré la première saison de Mindhunter, que j'ai vue grâce à nos ciné, évidemment.
Mais bien sûr.
Grâce, encore une fois, à ma chroniqueuse à ma gauche. Merci encore.
Pourtant, vous avez dit que j'étais un peu réservée.
Ah non, j'ai dévoré ça. C'est une série quand même. Il y a une scène d'action, c'est à un moment, il y a un accident de voiture. Et sinon, il faut aller dans les cinq dernières minutes. C'est vraiment une série où ça blablate. Mais où on se pose vraiment la question de comment bien réaliser le blabla, en fait. Et évidemment, vu le réalisateur, c'est pas un hasard que ça soit bien maîtrisé. À titre personnel, moi je m'en fous en fait de la ressemblance ou de la véracité ou de est-ce qu'ils ressemblent ou pas, est-ce que machin. Mais visiblement, ils se sont donné le mal. Ils font le côté avant après les acteurs, le côté un peu The Room, tu vois, du grand bien leur face. Moi, je trouve que le show est vraiment vraiment très efficace comme ça. Je pense que comme toutes les bonnes séries en général ne survit pas à sa seconde saison ou alors elle passe un très grand passage à vide jusqu'à la troisième. Je sais pas si je regarderai la seconde, mais en tout cas la première était un très très bon souvenir. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je crois que c'est partagé par Anaïs.
Moi, je l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu.
Super. Moi, j'attends le French Crime Story sur l'affaire Grégory. C'est tout ce que je...
Mais il y a une vraie série réaliste française.
Ça sera vraiment bien, ça.
Il y a une vraie série réaliste française basée sur presque des faits réels. Marseille, sur Netflix.
Basée sur des accents réels.
Voilà.
Essentiellement. Ça change.
Mais tu sais que le coup de l'accent, ils ont fait croire dans la saison 2 qu'en fait, c'était qu'un bluff dans la première saison, quoi.
Mais pour le coup, c'est vraiment tiré d'une histoire, ouais. Le personnage qui change d'accent en fonction de ses interlocuteurs.
Je veux bien croire qu'il y ait qui essayent de rouler des gens dans le sud, ça, voilà, je veux bien croire.
C'est une vraie histoire. Par contre, ça vous dérange pas qu'on se touche le zob en parlant de Picasso. Je sais pas si ça s'était tiré vraiment de fait réel. Je sais pas si la citation était exacte.
J'aimerais que ça soit vrai.
J'aimerais aussi.
Si c'est un enregistrement. C'était quand même, c'était exactement.
C'est vrai.
Non, je sais rien, mais je trouve ça génial aussi.
J'ai super peur. J'ai super peur, Perrine. Ne me fais pas des frayeurs comme ça. Voilà, je manque de m'étouffer. Le No Ciné Club continue. Désormais, c'est une tradition.
Pour monsieur.
Une pizza vite. Avant notre prochain sujet, on va jouer. Show me what you got. Et on va commencer, comme d'habitude, par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Alors, on va rester dans le thème parce qu'on va faire un petit questionnaire spécial série. J'ai préparé 5 questions assez vaches. Je dois dire, je suis assez fier de moi torture. C'est pas la peine de regarder l'écran, Anaïs. Il n'y a pas les réponses dessus, mais c'est pas la peine. On peut mettre le petit chrono là, qui fout un peu la pression histoire d'en rajouter.
C'est parti. Rouge, il faut couper le fil rouge.
C'est parti. Quel est l'épisode de série télé le plus vu de l'histoire de la télé américaine?
La fin de Cheers.
La fin de MASH. Bien joué, Anaïs. Quelle série détient le record de nomination aux Emmy Awards, les Oscars de la télé? Alors, j'ai 3 choix si vous voulez pour vous aider un petit peu. Il y a Breaking Bad, Urgence ou The West Wing.
Ah, j'allais dire Urgence.
C'est Urgence. Anaïs est sur une espèce de violence. Cette question-là, elle est surtout pour Jimmy Batista, mais je ne sais pas s'il connaît la réponse. C'est vraiment le pire cadeau que je puisse te faire de te dire à l'avance.
Hein. Super, très cool.
Il a failli y avoir un spin-off de Seinfeld, mais savez-vous autour de quel personnage il aurait dû être centré?
Autour de Kramer.
Non.
Ah, du. Merde, là j'ai un trou, j'oublie son nom, le voisin.
Non. Newman?
Ouais,
non.
Newman. Ouais.
Non.
Julia Dreyfus.
Non. C'est aucun des personnages centraux.
Ah. Alors, parce que dans
c'est
la
fiction. Spin-off sur un dans personnage secondaire.
Dans la fiction, il devait avoir un spin-off sur Julia Dreyfus.
Oui. Ouais.
Il s'appelle VIP. Ouais,
non, mais il existe. C'était dans Curb Your Enthusiasm.
Ils en parlent, oui. Mais c'est pas ça. Non, il a fallu avoir un spin-off centré sur Jackie Childs, l'avocat de Kramer, notamment, qui était un espèce de Cochrane.
Je vais te dire le sous-nazi en termes de.
Jimmy, je suis triste. Les habitants du monde des Simpsons ont tout plein de caractéristiques, parmi elles leur couleur de peau, qui est jaune, évidemment, mais aussi leur nombre de doigts, 4 au lieu de 5, à l'exception d'un seul personnage qui a eu le droit à une main complète. Est-ce que vous savez de qui il s'agit?
C'est pas Krusty?
Non.
Mais c'est un personnage récurrent?
Non. Enfin, si on le voit dans quelques épisodes, mais ce personnage, c'est un personnage qui appartient à plus que les Simpsons.
Leonard Nimoy?
Non. C'est pas loin.
Ah, non, c'est un guest alors.
On peut dire ça comme ça. Non, c'est Dieu en fait.
Ah, bah,
voilà, tout simplement.
Oui, c'est un guest.
Donc c'est un peu Leonard Nimoy quelque part. Et pour terminer, dans la série culte X-Files, une légende du cinéma d'horreur a bien failli rejoindre le cast de manière durable sous les traits de l'agent Doggett, finalement incarné par Robert Patrick. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Légende du cinéma d'horreur, comédien.
Un plan.
Bah oui.
Et finalement, c'est Robert Patrick, donc c'est quelque part une légende aussi.
C'est une légende, mais c'est pas le même.
Est-ce qu'il a des lunettes?
Non.
Est-ce qu'il a une casquette?
Ouais, que je sais pas où tu veux lancer un truc comme ça.
Est-ce que sa mère.
Mais il fait un personnage de cinéma d'horreur connu, très connu.
Oui, très connu.
C'est son personnage qui est vraiment très connu ou c'est Vector?
Ah, lui est une icône du cinéma d'horreur.
Christopher Lee?
Non.
Celui qui fait. J'ai un trou sur son nom, mais celui qui fait Freddy Krueger?
Non. C'est Bruce Campbell. Qui a joué du coup dans un épisode de X-Files, mais pas ce rôle-là. Il jouait un démon. Bravo à tous, hein, surtout Anaïs qui quand même est la seule à avoir trouvé à peu près.
Je crois que
merci pour l'humiliation au passage.
C'est grande pour Anaïs. Voilà,
bravo, bravo. Fini de jouer, on continue. Et on reparle du Festival de Cannes après avoir abordé lors du dernier club la polémique entre Netflix et La Croisette. Intéressons-nous de plus près au programme de ce festival, à la sélection qu'on pourra y trouver entre Yazan Ke, David Robert Mitchell, Matteo Garonne ou même l'increvable Godard. Et oui, petit tour d'horizon des attentes des uns et des autres, que ce soit dans la compétition ou dans les autres sélections. Évidemment, je précise qu'il y aura comme l'an dernier un suivi au quotidien du festival assuré normalement par les camarades qui seront sur place. Qui veut se lancer sur cette question de Cannes? Anaïs est en train de consulter la liste des films qui sont sélectionnés. Perrine, t'es prête, je sens.
Oui, non, bah il y a des attentes un petit peu, un petit peu évidentes. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, très évidentes.
Godard.
Non.
Raté.
Sûrement pas. Non, ça, désolé, mais non. Il y a le Gaspard Noé qui est à la quinzaine des réalisateurs. Mmh. Ça, par contre, je suis très très curieuse parce que.
Reviens, Jimmy, on va parler d'autres trucs après.
Au revoir Jimmy. Mais voilà, le dernier Gaspard Noé qui était à Cannes, c'était en séance de minuit, c'était Love, et ça avait été une. Je me souviens de la cohue que ça avait provoqué dehors. C'était mais une folie furieuse. Des gens ont perdu des bras. Je pense pendant cette cohue pour aller voir le film où tout le monde se disait c'est génial, va y avoir des bits en 3D.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est celui avec un pénis qui sort de l'écran.
C'est
un
ça.
Peu.
Et tout le monde s'est dit génial, ça va être hyper chaud, hyper.
La scène du cup shot.
Tout le monde s'est dit ça va être hyper cul, ça va être génial. Tout le monde est sorti en dépression. Puisque le film est quand même
très triste. C'est un film de Gaspard Noé, du coup. À quoi s'attendent les gens?
C'est un film hyper dur, en fait. Et donc, c'est un peu genre, tu sors en dépression, tout le monde sait, genre, je vais me coucher, je crois, ça va pas fort. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir. Je suis très contente aussi que Lars von Trier revienne en sélection officielle, hors compétition, mais sélection officielle. Ouais. Très, très contente. Son film sur un tueur en série, The House That Jack Built, avec Matt Dillon, me donne très, très envie, avec un teaser qui est absolument, absolument effrayant. Il dure 15 secondes, on voit juste Matt Dillon sourire, c'est fini, j'en fais des cauchemars. Donc j'ai vraiment hâte, d'être torturée par Lars von Trier sur mon siège cannois. Et après, non, il y en a beaucoup, hein, évidemment, mais je ne vais pas faire toute la sélection. Mais il y a David Robert Mitchell, ça c'est évident, qui est tellement surprenant depuis The Myth of the American Sleepover et It Follows. C'est quelqu'un qui a un sens de la mise en scène, un sens du drame teenage absolument fou. Ce type est fou, c'est une sorte de Carpenter des années 2010, il est absolument incroyable. Matteo Garonne, et je pense que je fais partie des seuls sur Matteo Garonne parce que je suis l'une des seules qui a aimé The Tale of Tales, qui était le dernier film de Garonne en compétition. Film complètement fou, médiéval, inspiré d'un livre de contes du 15e siècle italien, complètement bizarre, mais absolument fou. Et là, il revient avec un truc ultra violent dans la veine plutôt de Gomorra. Donc, je suis très, très curieuse de ça. Et je vais peut-être laisser les autres continuer parce qu'il y a plein de films. Mais je peux vous faire toute la sélection comme ça. Mais il y a plein de films.
Elle est capable.
Moi, j'en attends juste un seul. Donc, je vais faire très, très vite. Je crois qu'il passe à la quinzaine aussi, mais je ne suis pas 100% certain. Mais en tout cas, il est présenté pour la première Cannes. C'est Mandy de Panos Cosmatos. Parce qu'il y a Nicolas Cage et que j'ai envie de revoir Nicolas Cage revenir tout péter après la déception qu'a été Mom and Dad. Un film où il tuait ses enfants.
Mais comment as-tu pu le voir alors qu'il n'est pas sorti en France?
Parce que j'ai voyagé à travers le monde.
Ouais, bien sûr, ton cousin américain.
Ouais, bien sûr. Et donc voilà, qui était
attends, Mom and Dad, t'avais commencé à dire, c'est un film où il tue ses enfants.
C'est ça, c'est un film. En fait, il y a un signal électrique. Il y a un signal électrique qui passe dans les télés et qui ordonne aux parents de tuer leurs enfants.
D'accord.
Donc ils tuent uniquement leurs propres enfants.
D'accord.
Et en fait, le principe est super, la bande-annonce est super aussi. Et en fait, c'est quand même une grosse déception. Mais bon, voilà, après, ça reste quand même.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est par les mecs qu'on fait haute tension là.
Et un des deux, c'est seulement
voilà.
un des deux.
Voilà.
Donc, et en fait là c'est Mandy, donc c'est Nicolas Cage qui part à s'attaquer, bon, on croise dans les sectes, il part s'attaquer une secte religieuse hyper dangereuse qui a tué sa femme. Donc voilà, c'est prometteur. Quoi.
C'est je un revenge movie avec Nicolas Cage.
Voilà, mais là en fait je sais pas, comme
ça, il y a les.
Moi j'ai envie de, enfin j'avais l'occasion d'aller peut-être à Cannes cette année, mais je refuse toutes les années parce que c'est un truc qui me plaît pas forcément. Et en fait là j'avais vraiment envie d'y aller rien que pour ça quoi.
Donc c'est bien, c'est peut-être l'occasion pour Nicolas Cage de se rattraper. rappeler de sa dernière présence à Cannes à la quinzaine aussi, qui était avec le film de Shredder.
Ah oui, c'était Dogs Eat Dogs.
Enfin, je sais, oui, mais ça. C'était absolument abominable. Et on avait un Nicolas Cage qui était sur scène, qui ressemblait à sa statue de cire, mais avec des jolies pompes à paillettes. Voilà, c'est la seule chose qu'il avait.
Il a toujours la classe.
Qu'est-ce que c'était mauvais.
Il faut le laisser en paix. Il fait 6 films par an. Il peut pas tous les réussir. Qu'est-ce que...
Mais on y croit, Nicolas Cage. J'adore ses pompes à paillettes. Il faut vraiment l'épouser. Ah, embrasser.
Moi, j'accepte ses défauts.
Voilà, non, bien, t'es d'accord. Alors, moi, je suis beaucoup moins emballé qu'à mes camarades parce que j'ai pas mes frères Cohen, j'ai pas d'Almodovar, mais ils sont passés où? Alors, du coup, je fais mon shopping là-dedans. Et je peux vous dire que j'attends le Kore-eda qui a l'air intéressant. Et en fait, c'est marrant parce que Kore-eda, c'est coast to coast. Il y en a un qui sort en salle genre il y a 2 semaines. Hop, tu vas le voir. Hop, tu sais que tu vas revoir le suivant à Cannes. Et tu sais que le temps qu'il sorte, il y aura peut-être encore un autre qui va sortir. Ce mec est productif. Il est productif. C'est le Kim Ki-duk.
C'est le Hong Sang-soo.
Ouais, enfin, c'est mieux quand.
Non mais oui, mais en termes de product.
Alors, je suis un peu négatif, mais en même temps, il n'y a pas toutes les grosses arnaques habituelles. Il n'y a pas Hong Sang-soo. Je déteste Hong Sang-soo. C'est pas possible. Je suis hermétique complètement à son cinéma. Il y a un de mes réalisateurs préférés. Par contre, il y a Jia Zhang-ke. Jia Zhang-ke est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Je suis encore sous le choc de plusieurs de ses films. Et moi, le fait qu'il fasse un film un peu d'amour et de gangster. Un film un peu de genre. Je suis...
Avec une histoire de taxi, je crois, un top modèle, une histoire d'amour. Vas-y, balance,
parce que je sais que même si les personnages ne sont pas intéressants, ce qui compte, c'est la ville qu'il a filmé autour. C'est un mec qui filme l'urbanisme comme personne. Et si tu t'intéresses à ce que c'est que la ville, ce qu'une ville peut t'exprimer, et en particulier une ville d'Asie, parce qu'il y a des beaux réalisateurs de films, enfin je pense à Michael Mann qui filme Los Angeles, mais lui, vraiment spécifique à l'Asie, Jia Zhang-ke, c'est extraordinaire. Je vous engage à voir ces films. J'ai remarqué qu'il y avait dans un certain, je crois que c'est un certain regard, il y a le dernier au Soda.
Et au Soda. Il est à la quinzaine.
Donc moi, je suis toujours impatient de voir un au Soda, même si les derniers m'ont un peu perdu parce qu'il était parti dans un délire très furise. Oui, je sais que toi, en tant que papa,
le garçon et la bête, mais toujours.
Ouais, je sais que toi, ça part parce que t'es un papa.
J'ai moins pleuré que pour les précédents, mais...
Mais les enfants loups et tout ça.
Les enfants loups, c'est traumatique, ça.
J'étais moins client de ça, moi. Je sais que tous les papas m'ont dit... Voilà, ils m'ont dit exactement la même chose que toi. Je t'en veux pas de sombrer dans la banalité. Mais...
Je vais te péter la gueule.
Mais moi, j'aime bien Osoda, en fait. Je trouve que c'est un bon réalisateur. On l'a trop souvent présenté comme le nouveau Miyazaki pour qu'il se fasse devancer par Makoto Shinkai l'année dernière. Donc voilà, ça je me sens bien. Et alors ça c'est mon petit fétichisme personnel, mais attends, parce que
j'ai très peur quand tu commences une phrase comme ça, Daniel. Pardon.
Alors il y a le dernier Nuri Bilge Ceylan, qui est quand même mon réalisateur turc préféré. Je sais que je vais m'emmerder avec des films avec des mecs à moustache.
C'est le film Sieste. C'est le film de.
Je trouve extrêmement dur. Moi j'avais beaucoup aimé. C'était une fin d'Anatolie.
Et puis il dure un petit peu moins longtemps. Là, il est pas au 3h16, il est à 3h13. Non, il est que 3h13. C'est un court métrage.
C'est vrai. 3h13. Et alors ce qui est génial, c'est que moi il y a un de ces films que j'adore. Mais c'est pas parce que j'adore le film, j'adore le trailer. C'est un des meilleurs trailers que j'ai jamais vu, c'est Irkim Limit, le climat, qui a sans doute eu le palme de réalisateur ou quelque chose comme ça.
Et le palme de réalisateur. Non, mais genre, il a eu un prix. La caméra de plomb.
Il a eu un prix, c'est obligé. Et moi, je leur ai donné rien que pour le trailer qui est extraordinaire. Et je pense que c'est le delta le plus impressionnant entre trailer et film final. Parce que le film final est. Qu'est-ce qui s'est passé entre. Voilà. Je suis très impatient de voir le Nuri Bilge Ceylan. Je prendrai mon doudou. Je prendrai
ton sac de couchage.
Je prendrai mon sac de couchage. Je prendrai un petit benko et c'est parti.
Ils te laisseront pas rentrer, Daniel.
Ah, tu rigoles, attends,
Anaïs.
Ce sera une très mauvaise année à Cannes puisqu'il n'y aura pas Twin Peaks. Je pense qu'on peut tous faire notre deuil par rapport à ça. Voilà, le meilleur film de l'année dernière à Cannes, c'était évidemment les deux premiers épisodes de Twin Peaks. Jia Zhang-ke, j'attends aussi beaucoup. Au-delà des montagnes m'avait fait un choc très très violent il y a quelques années. Je m'en suis toujours pas remise, je crois. David Robert Mitchell aussi. J'attends aussi beaucoup le nouveau Spike Lee, Black Klansman.
Black Klansman, ouais.
Qui donc parle d'un policier noir qui a infiltré le Ku Klux Klan. Donc,
c'est une histoire vraie. Ouais. Eh oui.
Donc oui. Ça promet. On va voir si c'est aussi bien que Waco. Mais,
la section aveugle du Ku Klux Klan, visiblement.
Moi, j'ai perdu la foi en Spike Lee. J'aimerais.
J'allais dire la même chose.
Non, mais j'y vais perdant en me disant que peut-être ça sera une surprise, quoi.
Bah. En tout cas, je suis curieuse, quoi.
Parce que pour moi, le Spike Lee d'après la prise d'otage, machin, et le remake de Old Boy, là, c'est plus possible.
Ouais.
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 Ah, t'as vu, ça met un froid.
Mais c'est quand même Spike Lee. Et puis, non, mais l'histoire est cool. Il y a Adam Driver dedans. Je pense qu'il y a quand même, il y a quand même du potentiel. Donc, en tout cas, enfin, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et après, hors compète, il y a Fahrenheit 451, qui est avec Michael B. Jordan, un très très grand acteur, et c'est une très belle histoire. Donc, il me tarde de voir ce que ça va donner aussi. C'est en séance de minuit, il me semble.
Oui,
je regarde
oui,
je crois. Donc celui-là clairement je l'attends.
Pas mal, Perrine, tu voulais rajouter?
Oui, que en fait
devant lister le reste de la sélection.
Non, oui, alors c'est parti, on a une petite heure devant nous, donc j'y vais. Non, mais pour être sérieuse, la question aussi c'est de savoir si finalement, parce que là Paolo Branco et sa société Alfama ont assigné en justice le festival de Cannes par rapport au fait que le festival de Cannes va montrer
en clôture
l'homme qui a tué Don Quichotte,
dont on a parlé dans la précédente édition du club.
Donc voilà, ça devient c'était une arlésienne, c'était une malédiction. Ça devient
un sketch
un peu pas très drôle, en fait. Bah ouais. Ça devient un peu lourd parce que le film donc était censé être en clôture et sortir au cinéma. Et maintenant, on se pose des questions vu que ça lâche pas l'affaire du côté de Paolo Branco. Donc, on se demande un petit peu, c'est la grande question, est-ce qu'on va pouvoir voir ou pas enfin le Don Quichotte, l'œuvre de la vie de Terry Gilliam, clairement.
Et est-ce que ça va être aussi pourri que la bande-annonce l'a supposé?
Je sens commentaire. Après, voilà. Et après, ce que je trouve intéressant dans cette sélection pour revenir plutôt à la sélection officielle, c'est que justement tu disais, Daniel, qu'il n'y avait pas tes chouchous potentiellement et aussi certaines personnes que tu n'avais pas envie de voir qui n'étaient pas là. Moi je suis très déçue de ne pas voir Sorrentino, j'en fais un scandale personnellement tous les jours, mais en soi c'est aussi intéressant d'avoir des noms un petit peu nouveaux, des gens qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans cette sélection. Donc je pense à Spike Lee qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, mais des jeunes noms comme Eva Husson, là bien sûr quand je suis en train de chercher je ne les trouve pas, mais Kirill Srebrennikov, enfin voilà, des gens
Il y a un peu plus de Russes, oui, c'est vrai.
Mais voilà, on a deux personnes qui risquent de ne pas être là, hein, Srebrennikov et Panaï, puisqu'ils sont assignés à résidence chacun dans leur pays.
Chacun a des problèmes avec la législation locale.
Voilà, donc en fait, il y a une diversité et une radicalisation, en fait, d'une certaine façon, dans cette sélection, qui est plus auteur, qui est plus affirmée. Est-ce que c'est par choix, est-ce que c'est par manque de choix? Ça, je n'ai pas la réponse à cette question, mais par contre, ça donne au final une année qui est un peu curieuse, parce qu'elle n'est pas... On n'a pas l'impression d'avoir déjà tout vu, ou on ne sait pas où on met les pieds. Et moi, je trouve que ça, c'est un petit peu bandant, en fait, dans cette sélection officielle, du moins.
C'est ça, on part déçu et on va que être satisfait.
Bah, peut-être.
Bah, pas que.
Hein, mais personne n'a parlé de Solo de Ron Howard. Par contre, je suis extrêmement déçu. Mais...
C'est quoi ça déjà?
Tu veux dire le film de Star Wars qui sort 5 mois après le précédent?
Ouais, mec.
Non, mais est-ce que tu
jamais
le sens...
ça s'arrête.
Vas-y, est-ce que tu le sens? Qu'est-ce que tu sens pour ce film, toi, Thomas?
Oh, rien du tout, moi.
Mais toi, t'es un Star Wars fan.
Ah, mais complètement, ouais.
Ça va te briser.
Justement, je suis en deuil, depuis 3 ans. Moi, de toute façon, je suis mort à l'intérieur.
Ils ont déjà fait l'enterrement du film avant qu'il commence.
C'est fini. Non, il n'y a plus d'espoir.
Et en plus, ils t'ont mis ton réalisateur préféré dessus.
Mais ouais. Le plus grand, le plus roux.
Ronny
le chauve.
Da Vinci Codeman.
Oui, c'est vrai, ça va être bien. Bref, on enchaîne avant notre prochain sujet, évidemment. Évidemment, encore un petit jeu.
C'est danseur John Pepper. C'est... Tu vas la fermer, oui ou merde. On parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov.
Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical. On va pas faire Cannes parce qu'on l'a fait la dernière fois. Donc on va rester sur les séries par rapport à notre sujet d'avant. Et ce coup-là, ce sera 5 génériques. Le premier qui trouve a gagné, comme d'habitude. Donc, vous citez le nom de la série, je vous demande pas le nom du compositeur.
Est-ce que c'est un peu salaud ou pas?
Il y a des trucs salauds, des trucs évidents. Oh. Voilà, okay, go. On peut y aller. Premier extrait.
Ah bah si.
NYPD Blue.
Non.
Non, c'est...
New York Police Judiciaire. Ouais. New York Unité Spéciale.
Ah, Unité Spéciale.
Voilà. Unité Spéciale. Merde,
moi, je ne sais plus la différence entre...
C'est pas NYPD Blue. Je suis désolé. Unité Spéciale.
Alors que c'est vous, le train.
Ah bah non. Eh bah non. Deuxième extrait. Ah là là là.
Ah, je l'ai. Ah, c'est un truc débile.
Ouais. Enfin, débile.
Je crois que j'étais pas née pour
c'est
ce
passé
truc.
En France. Je me suis étonné.
Si, t'étais née, mais.
Ça sent l'année 90.
Ouais.
Histoire d'un médecin, très jeune.
Ah, c'est docteur
Queen.
Non, le jeune.
Docteur.
Docteur, comment il s'appelle?
Jivago.
Doogie. Docteur Doogie.
Oh, tu peux me l'accorder.
Ouais.
C'est l'histoire d'un docteur.
Non, j'y étais presque,
un demi-point. Allez, troisième extrait.
Ah, trop détective.
Bien, Anaïs. J'avais dit qu'il y en avait des.
Enfin, des trucs contemporains.
Quatrième extrait.
Six Feet Under.
Non,
putain, c'est le morceau de Nick Cave, je sais, mais
ouais, c'est Nick Cave.
Il est utilisé dans Scream aussi.
Ah, putain,
ouais.
Putain,
c'est relou.
C'est une série.
Ouais. Hein? Ouais, merci.
Ah non, ça m'en fait.
Avec un acteur qui a des yeux très beaux, des très beaux yeux. Je dis ça parce que ma femme regarde ça uniquement pour ça, mais.
C'est encore actuel.
Oui. Il y a eu 4 saisons, c'est sur Netflix aussi. Au passage. C'est Peaky Blinders.
Ah, oui.
Je connais pas.
Et la dernière est pour toi.
Bon, ça fait.
J'étais obligé. C'est l'obsession dans la vie de Lelo Jimmy Batista. Il se réveille tous les matins en écoutant ça.
Mais c'est une bonne obsession.
Genre, ma 6 tous les jours.
Ouais, c'est normal. Mais c'est normal.
Et pas Curb.
Si, aussi Curb. Mais Curb, il y a
une fois par semaine.
Ouais, c'est comme tu vois, genre, tu vas pas manger de la choucroute tous les jours.
Ah non, mais oui, ça fait mal au dos.
Alors que des céréales, tu peux.
Voilà, céréales, tu peux.
C'était Chocapica, toi.
C'est bien les Chocapica.
On s'éloigne totalement du propos de cette émission. Merci d'avoir joué. On attaque notre prochain sujet. Non mais oh, faut pas déconner non plus. Si vous suivez l'émission classique de Nos Ciné de manière régulière, vous aurez sans doute remarqué et noté en même temps que nous un certain revirement des tendances ces 12 derniers mois, avec un retour progressif en grâce du cinéma de genre côté critique et côté des finances, porté par des succès tels que Get Out, ça ou encore le tout récent A Quiet Place qui bat des records d'entrée outre-Atlantique, ce qui pousse les studios à s'y mettre pour de bon, par exemple la Fox ou notre bien-aimé Guillermo del Toro a désormais son propre label de films d'horreur et de SF chez Searchlight, et c'est également le cas chez nous en France avec des projets tels que La Nuit a dévoré le monde ou Dans la Brune, dont nous avons déjà parlé ici. Pourquoi ce regain d'intérêt subi, faut-il s'en féliciter? Perrine, ne te recule pas du micro, c'est toi qui as suggéré ce sujet, donc c'est toi qui vas commencer.
Tu te démerdes avec ton sujet débile. Non mais en effet, oui, on peut remarquer, donc le cinéma de genre, par exemple, surtout aux États-Unis par exemple, c'est pas un cinéma qui a souvent perdu de l'argent en réalité, hein, parce qu'il y a pas mal de productions qui sont assez petites et qui finalement arrivent à rentrer dans leurs frais assez régulièrement. Mais là, en fait, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, je dirais que ça... Je ne vais pas dire que ça a commencé avec les Paranormal Activity, mais il y a eu cette espèce de relance par les Paranormal Activity. On avait des films comme ça, à tout petit budget minuscule, ridicule, et qui d'un seul coup étaient mais plus que rentables, puisqu'on arrivait à des chiffres où je ne sais plus combien avait coûté le premier Paranormal Activity, mais d'un seul coup, le film était plus que des milliers de fois remboursé. Donc c'est devenu quelque chose d'assez assez fort, et là on se retrouve avec ça qui est le film de genre qui fait le meilleur box-office de tous les temps. Quiet Place, comme tu le dis, qui a fait 50 millions pour son premier week-end.
Oui, c'est phénoménal.
C'est phénoménal. Donc le film sort en France en juin sous le nom de Sans un bruit. Film de John Krasinski.
Et non pas Un endroit calme, qui je croyais le titre québécois.
j'adore le Québec pour ça.
Mais évidemment.
Mais voilà, donc Sans un bruit, on a quand même une recrudescence. Surtout, c'est des films. Donc en plus, lui, pour le coup, on pourrait citer Jason Blum, qui a vraiment cette...
Oui, c'est vraiment la stratégie Blumhouse.
Voilà, la stratégie Blumhouse depuis donc Paranormal Activity, 2009. Mais ensuite avec il a continué avec Split ou avec Get Out, mais il a gagné ses lettres de noblesse avec ça aussi, parce que d'un seul coup ça devenait un peu plus sérieux, un peu plus politique, notamment Get Out, clairement, était vachement plus politique. Et mais voilà, c'était la stratégie. Et là, on découvre par exemple avec Quiet Place, enfin Sans un bruit, que c'est Platinum Dunes qui produit ça. Oui. Donc c'est Michael Bay.
Bien sûr.
Donc ça paraît complètement fou. Michael Bay se lance aussi dans ce type de partout, tout le temps, dès qu'il y a de l'argent à se faire.
Et des voitures à faire exploser.
Des voitures à faire. Non, là, non.
Là, pour le coup, non.
Là, non. Mais voilà, on est en train d'appliquer cette recette de petits budgets avec des films de qualité où des auteurs, d'un seul coup, viennent se positionner derrière. On a des films vraiment sérieusement de qualité. Et en France, c'est tout à fait pareil. Je pense à. On a un regain d'intérêt, clairement, avec Grave qui avait dû lancer cette tendance-là. Grave, puis il y a eu Revenge, puis il y a eu là récemment La Nuit a dévoré le monde, ou encore Ghostland. Hein, c'était Gosselin.
Oui, Gosselin. Le logier,
clairement. Donc ça fait pas encore des scores aussi faramineux, aussi impressionnants qu'aux États-Unis, en France, mais quand même il y a un regain d'intérêt du public et surtout il y a un regain d'intérêt des financiers.
C'est ça, c'est surtout c'est ça du point de vue de la production que c'est intéressant.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le CNC, par exemple, qui n'était pas connu jusque-là pour particulièrement financer le cinéma de genre, hein, les gens qui font du genre pourront le confirmer, là d'un seul coup va créer des ateliers, notamment avec Capricci, créer des ateliers pour le cinéma de genre, pour l'écriture de films de cinéma de genre, et c'est pas tout à fait un hasard en soi, si d'un seul coup on a ce regain d'intérêt vers le genre, au-delà d'avoir des plumes très intéressantes, des gens qui savent écrire et mettre en scène ces films-là. On a aussi une volonté de mettre en avant une certaine industrie en France, qui est l'industrie des effets spéciaux. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises d'effets spéciaux en France, de VFX, et un grand savoir-faire, sauf que pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait... le marché français ne va pas trop vers eux encore, parce qu'on n'a pas des films qui utilisent les VFX plus que ça. C'est utilisé pour plein de choses, pour des détails dans les films, mais vraiment créer des créatures ou des mondes. C'est pas encore au cœur de la réflexion. Et maintenant, il y a eu plein de changements dans les systèmes de financement avec l'agrément, etc. Je vous passe les détails. Mais voilà, il y a eu plein de changements où on intègre les VFX beaucoup plus tôt dans la production d'un film. Et quels sont les types de films qui utilisent le plus de VFX ?
Les films de genre.
Les films de genre. Donc il y a une certaine logique derrière tout ça, de vouloir encourager ces films-là à exister davantage, parce que aussi on a toute une industrie derrière à emporter avec lui. Donc ça c'est pour la partie plus technique. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres avis, j'en ai aussi, mais sur la partie plus pourquoi ça marche bien en fait.
Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien ?
Pourquoi ça marche ?
Daniel.
D'abord, il y a un truc, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous ont manqué en fait toutes ces années.
Oui.
À chaque fois que tu vois un film d'horreur ou un film de... même un film de samouraï ou un film de cow-boy, c'est devenu maintenant des films de genre, en fait. T'as toujours cette impression de nostalgie qui te rappelle du cinéma qu'on aimait, celui en VHS, celui du film...
cinéma d'exploitation, quoi.
Ouais, du film que tu voyais random, quoi. Et c'est pour ça qu'on est surpris. C'est pour ça qu'un film comme Get Out est en fait si efficace. C'est parce que si tu rentres sans t'y attendre, c'est un film qui t'explique pas mal de choses. C'est un film qui te prend assez vite, en fait, Get Out. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, on peut parler presque de méta-genre, en fait, puisque Get Out est un film qui aussi a un propos social et qu'avaient aussi les autres films. Hein. Faut pas oublier, c'est que les films d'avant, ils avaient un propos sur.
C'est souvent la base du cinéma de genre. C'est plutôt du cinéma assez engagé politiquement.
Ouais. Et que c'est les descendants de ce système et qu'il y a toujours une double lecture à chaque film. Tu parlais par exemple de Grave aussi, Grave qui a. Ce qui est intéressant dans Grave, c'est de voir le succès d'estime. Enfin, c'est-à-dire, quand les gens aiment Grave, ils sont gravement atteints. C'est vraiment, j'ai vu une salle de fans en fait. Je suis retourné lors d'une projection. Je crois que c'était en février à Grave. Moi, je découvrais le film donc complètement après tout le monde. Et les mecs étaient vraiment à fond dedans, en fait. Il y a vraiment, c'est du cinéma qui est un peu en marge, mais qui pousse les gens à un peu se réunir. Et les gens ont besoin aussi de se réunir autour de films. Ils n'ont pas juste besoin de se réunir autour des Star Wars et des ils n'ont pas besoin d'être obligés de se déguiser en Jedi à chaque fois qu'ils vont au cinéma, quoi. Je dis ça pour toi, pour le mois de mai. Prépare-toi, il y a Solo qui arrive. Mais oui, les gens ont besoin de se sortir aussi proches, de regarder des films ensemble. Et les films de genre, c'est aussi des films qu'on va voir entre potes. Il y a vraiment une vraie notion de ça. Et à chaque fois que moi je vois un film de genre dans ces récents, tu mentionnais Get Out, mais d'autres.
Split,
c'est des films que tu as envie d'aller voir avec tes potes. T'as envie de partager une espèce de. Même si c'est du. It Follows, c'est vraiment le genre de film, quand je suis sorti de la salle, j'ai dit putain, j'ai envie d'y retourner, et avec mes potes. Et du coup, il y a un vrai truc qui se passe avec le renouveau du film de genre. Et en même temps, il y a un truc sur lequel je voudrais juste revenir, c'est que le cinéma de genre, en général, se déplace. Il le diffuse en général en VO et au centre de Paris. Et il le diffuse pas en bordure. Et en fait, parce que plus c'est du cinéma de genre, et ça, c'est, il y a pas mal d'articles là-dessus. Je sais pas si tu as vu ces trucs-là. Les salles de cinéma en général, coup, c'est les gens qui viennent de manière les plus casus. Les mecs qui font le plus de bruit dans la salle.
La diffusion des films. Ouais, les films d'horreur
en particulier. Quoi.
Oui, il y a eu des problèmes avec Annabelle ou ce genre de film où d'un seul coup c'est un peu parti en vrille.
Qui du coup sont diffusés en VO et plus en VF
calmer les ardeurs de certains potentiellement.
Mettre une certaine population en dehors des salles.
Et c'est dommage, mais parce qu'en même temps aussi ces films-là, c'est parce qu'ils. D'une part, c'est segmentant, mais surtout c'est parce qu'ils provoquent des vraies émotions. Et justement, il y a cette idée, on va au cinéma pour avoir une émotion. Je pense qu'il y a une perte de vitesse, par exemple, des films de super-héros qui se calquent un petit peu les uns les autres, qui sont très très similaires les uns aux autres. Et là, d'un seul coup, on a une proposition qui est fraîche, qui est nouvelle, où on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas comment on va être surpris, et on sait qu'on va avoir peur. Mmh. Et ça crée de la sensation. Et en effet, c'est une sensation de groupe, ça peut être une sensation de drague, hein, de couple. Hein. Mmh. Il y a encore des gens, si, qui vont au cinéma pour draguer. Enfin, j'espère. Je sais pas, les jeunes, faites-moi plaisir en soi.
Continuez.
Allez, mais voilà, en soi, en réalité, voilà, il y a ce truc encore de très très grégaire autour du cinéma de genre, et surtout qui est surprenant. C'est un cinéma, on ne sait pas tellement ce qu'on va voir. Et je pense qu'il y a tout un public qui est un petit peu gavé de voir littéralement toujours la même chose et qui a envie d'un seul coup d'être surpris.
Jimmy, tu es bien pensif.
Ouais, non, je sais pas, ça m'inspire pas trop, parce que pour moi, quand on parle du retour du cinéma de genre, c'est quand on parle du retour du brocoli, quoi. Enfin, c'est
le brocoli, c'est saisonnier. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est le nouveau brocoli.
Là, on est dans
le brocoli croustillant, plus machin. Je sais pas. Moi, après, je suis incapable. Enfin, vraiment, j'en ai toujours regardé. J'en ai toujours.
Oui, t'as l'impression que ça n'a jamais disparu.
Ça n'a jamais disparu. Effectivement, dans la production, il y a peut-être plus de facilité, ou moins plus facile d'attirer l'attention des financeurs avec ça. C'est pas forcément plus facile de faire des films, hein, mais c'est plus facile ou moins d'arriver et de dire, bon, bah voilà, de pas te faire mettre dehors directement parce que t'as un truc un peu sombre et tout. Moi, par exemple, l'adaptation de Stephen King, c'est presque même pas un film de genre pour moi.
C'est un blockbuster, quoi.
Voilà. Et de la même manière, il y a des blockbusters qui sont plus films de genre.
Feel Good Horror Movie avait dit notre ami Rafik.
Je dirais même pas horreur dedans. Feel average. Je me sens moyennement.
Genre, c'est pas que l'horreur. Genre, c'est aussi la science-fiction. Genre, c'est aussi l'action. C'est aussi. Enfin, c'est des films comme ça qui ont une typologie assez marquée, assez forte, en fait. Et qui ne sont pas de la comédie, qui ne sont pas du drame, qui ne sont pas du documentaire, quoi. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez différent, qui est un peu à la marge. Et ça, pour le coup, rentre clairement dedans. Mais ça a un succès aussi parce que c'est le remake, parce que c'est un livre de Stephen King, parce qu'il y a l'effet Stranger Things, parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le succès de ça, en tout cas.
Anaïs, tu opines du chef?
Oui, non, je sais pas si c'est qu'une impression, mais moi j'ai l'impression d'en avoir vu plus ces dernières années.
En tout cas, c'est plus accepté par les médias, par la critique.
Et par la critique,
en général,
je trouve. Ouais. En fait, j'en ai vu beaucoup ces dernières années qui étaient vraiment ultra populaire auprès de la critique, et qui était déjà le fait que Get Out soit nommé à l'Oscar du meilleur film, même à Cannes ces dernières années. On avait eu Green Room, on a eu The Neon Demon. Alors bon, c'est pas 100% de l'horreur, mais c'est du genre. Il y avait le film d'Assayas avec Kristen Stewart et les fantômes là, qui était aussi assez surprenant. T'as eu The Witch, t'as eu Babadook, t'as eu It Follows, t'en as eu plein dernièrement qui ont été vraiment sur les listes des meilleurs films de l'année.
Qui ont été portés par une qualité un peu hauteur, du point de vue de la critique. Du point de vue de la critique,
comme le film où Scarlett Johansson est une alien aussi, qui avait été très remarqué.
Ouais, prenez les gens en stop.
Ouais, voilà, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, tout cela, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que, en tout cas, ce que tu disais, Daniel, c'est effectivement comme les films d'horreur en particulier sont assez politiques, ils l'ont toujours été, mais là ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces films là j'ai l'impression qu'ils fonctionnent aussi parce qu'ils ont un propos social qui est différent, qui est nouveau, et notamment Get Out qui parlait de racisme. Mais t'as aussi plein de films d'horreur avec des femmes qui sont des héroïnes, la mère célibataire de Babadook qui est complètement qui a vraiment une sale gueule et qui prend pas du tout le temps de se coiffer ou de se maquiller et qui est complètement dépressive. C'est des personnages
grave, littéralement c'est un coming to age movie, en fait. C'est l'histoire d'une fille qui est en train de devenir femme.
Et c'est des personnages qui sont généralement en marge et qui du coup là sont mis en valeur par ces films là et ça me fait penser un peu au renouveau des comédies romantiques aussi, avec The Big Sick et Obvious Child il y a quelques années, sur l'avortement, qui est pareil un genre qui était devenu un peu très commercial et très cucu dégueu avec Docteur Mamour dans tous les films. Et donc t'as ces nouvelles comédies romantiques.
Qui est Docteur Mamour?
Patrick Dempsey de Grey's Anatomy.
Alors toi tu l'as vu Transformers 3, toi.
Non, ouais aussi, ouais, d'accord. Et non, mais Grey's Anatomy je vois à peu près.
Et donc maintenant t'as ces... Oh, non mais...
C'est de la merde. Enfin. Voilà, bonsoir. Continue.
Ça me fait penser à ça parce que c'est un peu le même principe, quoi. C'est-à-dire que petits films.
Ça va vers des territoires nouveaux, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, voilà, qui prennent un peu un angle différent, qui ont un petit budget et qui reprennent un genre ultra populaire et connu, voilà, en faisant quelque chose de différent, quoi.
Et que donc peut-être
On peut attendre beaucoup de ce label Del Toro.
J'aimerais,
non, tu voulais dire
j'aimerais
quelque
ajouter
chose,
un truc, c'est Daniel, qu'on n'a pas du tout parlé de mon dada, à savoir l'Asie. Et ouais, l'Asie est extrêmement présent. Les nazis aussi, mais d'autres. C'est une
d'autres
autre
cercle. C'est l'objet d'un autre
genre.
Podcast.
Mais c'est que le cinéma asiatique aussi est une très très vif, oui. Et notamment le cinéma thaï. Et j'ai pu le découvrir il y a pas si longtemps parce qu'il y a une expo à Paris et je vous la recommande vraiment puisque c'est un peu d'actu. Ceux qui habitent pas Paris, ça vaut le coup d'aller la voir. C'est Enfer et fantômes d'Asie, qui est en ce moment au Quai Branly, et il y a une salle entière qui s'appelle Little House of Horror of Thai, enfin un truc comme ça.
Ok.
Et t'as 15 minutes.
Ça ressemble au nom d'une maison close dit comme ça, mais ouais, continue. La Thaïlande,
évidemment, toi. Et du coup, il y a une salle entière de films d'horreur pendant 15 minutes. C'est un best-of, un melting
trop
pot de films d'horreur thaï. C'est aussi quelque chose qui met en valeur la culture du cinéma de genre asiatique, puisqu'il y a tous ces films produits par Samong avec les Chinois. Je te regarde, toi.
Les
Chinois sauteurs.
Je suis pas encore allé voir l'expo, mais justement, est-ce qu'il y a un extrait de Spidey Satan dedans? C'est avec une sorcière qui se transforme en araignée géante lance-roquette.
Je crois.
Ça a l'air vachement bien.
Il y a le truc des enfers thaï, ils ont refait une statue, ils ont vraiment, scéniquement c'est extraordinaire.
Cool.
Et évidemment, il y a cet axe central qui est Ring aussi, il y a une pièce entière dédiée à Ring et à tous ces. Ah non, mais tu vas.
Merci pour.
C'est vrai, tu vas flipper. Il y a une espèce de meuf qui apparaît en random.
Du coup, j'irai pas.
Ah non, mais.
Ah bah non, ça
ne
peut pas le dire.
Avec
ses cheveux.
Exactement.
Je fais des malaises, moi, pour de vrai.
Alors, lui, il va pas. C'est pas une expo à voir avec bébé.
Demande à Jimmy, j'ai failli faire demi-tour à la
première de ça, justement, à Projo.
Il y avait des gens déguisés
qui étaient là payés par la boîte.
Et il paraît qu'on t'a fait les gaz du sang quand t'avais Justice League aussi.
Oui, mais c'est pour d'autres raisons.
Donc voilà, je répète une fois, Enfer et Fantôme d'Asie, c'est au Quai Branly. Et ça parle énormément de cinéma, une expo qui parle énormément de cinéma asiatique en l'occurrence.
Ça a l'air mortel. Merci beaucoup, Daniel. On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper, mais non, il y a encore un jeu.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Et celui-là, vous savez, c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration à tous. C'est parti.
Lydia disait juste que 650 étudiants s'étaient inscrits le premier jour. Sérieux, mais même si j'étais dealer, je pourrais pas donner une dose gratuite à 650 personnes, pas en une seule journée.
En plus, ce gars n'a pas assez d'amis pour faire une partie.
Ah merde, je l'ai.
Tu l'as?
Faculty.
Non, c'est pas dans Faculty.
Pas Faculty, non.
Non. Vous voulez un deuxième extrait pour essayer de trouver? Ouais, allez.
C'est parce que j'ai bloqué le compte!
T'as cru qu'on allait te laisser parader dans des costards ridicules en prétendant que tu diriges cette société?
Désolé, mon Prada est au pressing! Y'a aussi mon survêt et mes vieilles tongs dégueux comme merde le monde! Espèce de connard prétentieux!
La sécurité est en route, tu vas partir maintenant.
Jamais je signerai ces papiers.
Nous obtiendrons ta signature.
Qu'est-ce que ça peut bien
ça
être?
Ça peut être à Tom Cruise, là,
c'est... Non, c'est un film récent.
Oui, non.
Enfin,
mais
ça pourrait être Tom Cruise, du coup. Récent, il y a moins d'une dizaine d'années.
Ah.
Un film salué par la critique, on peut dire. Succès public.
C'est pas American Beauty, ça.
Non, c'est pas American Beauty. C'est beaucoup plus récent qu'American Beauty.
Je sais pas, non. Wolf of Wall Street.
Ah, ça pourrait s'en approcher.
Whiplash, non.
Non, c'est pas Whiplash.
Ah, mais c'est le truc de signature. Et c'est la voix du personnage. Je sais que c'est la voix française d'un.
Et la blague sur mon Prada est au pressing.
Oui, il y avait un peu de ça. Ouais.
Ouais, non, ça vous dit rien, ça.
Toi, tu dois savoir.
Non.
Ça sent le Nick Cage.
Non, pas du tout.
Non.
Vous voulez un nom d'acteur?
Oui.
Celui qui dit mon Prada?
Ouais.
C'est Andrew Garfield.
Social
Network de David Fincher. Vous l'avez pas vu en VF, hein. Personne. Mais oui, mon gars. Et oui, elle est dure, la VF. Très dure.
C'est vrai que la musique.
La musique pouvait aider un petit peu.
Le petit piano.
Petite note, hein. Atticus Ross et ce bon vieux. Très
noir. Le Calogero de Gavin à l'avant.
Exactement. Toujours la bonne. Toujours le truc qui marche. Merci beaucoup d'avoir joué. On passe à la suite.
Internet!
Et donc, vous le savez, c'est quand vous entendez ce jingle, ça fait toujours rire les gens, c'est bien. Et on s'en lasse pas. C'est donc le temps de déballer les questions de nos amis internautes qui nous suivent en direct sur Facebook et sur YouTube. Alors, question. Ah oui, on a plusieurs questions autour de l'ultime et dernière saison de Samurai Jack. Alors, je sais pas si des gens ici l'ont vu ou pas.
Moi, j'ai pas vu la dernière saison.
C'est la saison 5, visiblement. On nous demande notre avis. Donc, non, personne n'est allé aussi.
Moi, j'adore Samurai Jack.
Mais c'est vachement bien, Samurai Jack. Ouais, voilà. Très bien. Et ben voilà, comme ça, au moins, c'est passé.
Désolé,
Xav, qui nous posait la question.
Sorry, Xav.
Et un auditeur qui s'appelle Samurai Jack aussi, qui nous posait la question. Lui, visiblement, je pense, attendait vraiment beaucoup de cette question. Bref. On nous demande notre avis sur la série Perdue dans l'espace sur Netflix, si quelqu'un l'a vu. Ah, Anaïs, pourquoi tu soupires comme ça?
Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas. Ouais. C'est juste que j'ai vu l'image, ça ressemblait à Stranger Things, ça m'a saoulé.
Ça t'a gonflé, ouais. D'accord. Quelqu'un s'est risqué à ce remake à la con.
Je dois m'avouer que j'ai vu 15 minutes. J'aime bien. C'est quoi? Je sens les personnages débiles.
Ouais.
Et eux, ils ont l'air.
T'as un sixième sens.
T'avais l'air mieux que le film avec Matt LeBlanc. Parce qu'il y a eu un film Perdu dans l'espace avec Matt LeBlanc.
C'est vrai.
Mais en Planet Pop Friends. Ouais. C'est un grand moment.
Je me souviens, ils avaient un très bel uniforme violet.
Ouais. C'était un film assez traumatique.
Ouais, c'était vraiment de la merde.
C'était super, hein, Perrine? Je te rappelle, on avait vachement aimé. Psychokinesis sur Netflix nous demande toujours Samurai Jack. Quelqu'un, point d'interrogation. Quelqu'un l'a vu?
Toujours pas vu.
J'ai vraiment beaucoup de retard sur Netflix, hein, je tiens à le dire. Là.
C'est sur la liste.
C'est vraiment si vous avez vu Alexa et Cathy, hein, c'est vachement bien. Hein.
Mais Last Train to Busan, c'est très bien.
Oui, c'est vrai, Last Train to Busan.
Donc
c'est très
j'espère
bien.
Que celui-là aussi bien.
Le 22 mai, il y a Terrace House sur Netflix, hein, je suis sûr.
Okay.
Priorité.
Adrien nous demande, vu qu'on a parlé de Mom and Dad, il nous demande plus précisément sur Brian Taylor. Donc je suppose que Brian Taylor a quelque chose à voir avec Mom and Dad.
Bah, c'est celui qui l'a réalisé.
C'est parti du duo
très avec Neville Dean qui faisait
très bien.
Hypertension.
Exactement.
Ok. On nous demande si nous avons entendu parler de Happy, la série adaptée du graphic novel de Grant Morrison.
Tout
à fait. Qui est un assez bon graphic novel de Grant Morrison. C'est pas sa meilleure période, mais.
C'est même un peu chelou. Hein. C'est pas son chef-d'œuvre. Mais par contre, c'est une de ses adaptations les plus intéressantes. Oui. Et il faut vous expliquer que c'est quand même un détective, si je me souviens bien.
Oui.
Et il est aidé, il est hanté par le personnage donc de Happy, enfin cette espèce d'énergumène qui est fait en image de synthèse là. C'est très chelou. C'est une série chelou et quand j'aurai plus de temps, je m'y attarderai. Mais autant tu te le fais en hardcover, ça passe, mais en série, c'est trop long, quoi. Ouais. C'est comme te mater la série Powers, tu peux plus, t'as plus le temps de tout.
T'as plus l'énergie. Ouais. T'as plus l'énergie.
Je préfère lire les originaux, en fait, tant qu'à faire.
Ouais,
et c'est valable pour Happy et pour Preacher, par exemple.
Oui.
Ah, parce que Preacher, c'est vraiment, c'est violent, en fait, de se taper la série.
C'est devenu assez pénible.
Ouais.
Très rapidement pénible. Xav nous demande comment peut-on expliquer que Walking Dead arrive à 8 saisons en étant tout pourri, nous dit-il, alors que Ash vs Evil Dead vient d'être annulé au bout de sa 3e et que les gens ne sont pas au rendez-vous.
Grand sujet.
Pour parler un peu du retour des brocolis là, et ben Walking Dead ça a vraiment été une période où les zombies sont devenus accessibles enfin au grand public quoi. Je me souviens enfin quand on regardait les films de zombies dans les années 90 même 2000 ça avait un petit côté
transgressif
mais genre c'était
un peu
exotique quoi, tu vois, c'était exotique en plus tu dois rentrer dans les débats qui sont les murs entre les zombies italiens et les zombies espagnols.
Les zombies tchèques.
Non, mais il y a vraiment une vraie différence entre les Italiens et les Espagnols.
On a déjà eu cette
Les Espagnols sont très lents, les Italiens aussi, mais les Espagnols sont encore plus lents.
C'est la chaleur, ça.
Et donc, Walking Dead, ça a vraiment marqué ce truc, quoi. C'est ce moment où tu voyais dans le métro des banquiers en chemise blanche qui étaient là. Oh, j'ai regardé un film de truc de zombies. Et tu vois que ça avait changé. Là, effectivement, il y avait un changement. Ça arrivait il y a presque 10 ans, quoi.
8. Mais qui êtes-vous?
Non, mais voilà, il y a aussi le truc, c'est que Walking Dead, en effet, il a démarré il y a, comme tu disais, il y a 8 ans, à un moment donné où il était un petit peu presque. À la fois, les zombies étaient un peu populaires, mais il était seul sur son créneau,
en fait.
Il était seul sur son créneau à ce moment-là. Et puis, il était aussi sur une chaîne plutôt grand public. D'un seul coup, les gens avaient accès à ça plus facilement. C'était le frisson du samedi soir, ou je sais pas quand est-ce que c'est diffusé d'ailleurs. Et puis, il y avait Franck Darabont qui était à la base, etc. Donc, il y avait tout ça derrière lui. Ash, Evil Dead, Bruce Campbell, c'est aussi un peu de la niche déjà dès le départ. Donc en fait, je pense que déjà, ça fait appel à vraiment un public déjà de niche et qui connaît un tout petit peu déjà l'univers.
C'est une
l'univers.
Autre génération.
C'est une autre génération. Je pense que
même dans la, dans la Walking Dead, ça reste un truc qui suit d'épisode en épisode. Ash vs Evil Dead, il y avait un côté presque pas méta ou ironique, mais pas loin quand même, parce qu'il y avait un côté limite Buffy. Buffy sans le côté un peu générationnel et tout ça. Enfin, le côté Monster of the Week. Il y avait un truc limite un peu gadget, quoi, qui était cool, hein, mais qui pouvait saouler
très vite. Qui pouvait laisser les gens à distance, en fait.
Ouais. Qui pouvait désarmer un peu les gens.
Jimmy a raison, en fait. Tout ça, le truc de Walking Dead, encore une fois, je reviens à l'original en papier, c'est que si tu regardes, si tu le lis en comics, c'est un suspense par semaine, en fait, par mois. Donc, du coup, ils ont calqué cette recette en série. C'est la recette du feuilleton. Les gens peuvent trouver ça vulgaire et tout. Moi, j'y vois toujours un petit côté Alexandre Dumas, quoi. Enfin, genre, t'es accroché au truc, t'as envie de savoir la suite. Moi, je continue de le lire en comics.
Moi, mon frère le lit et quand je lui rends visite, je rattrape le retard.
Moi, on est au 175. Enfin, il pourrait continuer comme ça pendant des lustres. Et le succès de Walking Dead, il faut le rappeler, c'est pas les zombies. Le succès de Walking Dead, c'est les êtres humains. C'est une série sur la métaphore que finalement les zombies, c'est pas les zombies eux-mêmes, c'est les humains parce que c'est eux les vivants, les morts vivants qui végètent dans leur vie. C'est ça le propos de Walking Dead et c'est ça qui fonctionne au moins dans la BD. Moi, la série, j'ai arrêté à la saison 1. Ils étaient dans un bunker. Je vais là, stop, ça suffit.
Je précise pour Lost in Space qu'on a consacré une émission, me dit-on en régie, qu'on a consacré une émission de Next Episode, donc notre podcast autour des séries à
c'est pas mal,
Lost in Space. C'est pas
pratique. C'est Joël,
c'est
Joël.
Non, c'est pas Joël, c'est Camille. C'est pas Joël, c'est Camille. Daniel, il y a deux questions pour toi. T'es vachement gâté. Donc il y a Karim qui te demande si tu as vu The Room et si ce que tu en as pensé.
Ah, The Room, le film
de Tommy Wiseau, je suppose.
Ah oui, bien sûr.
Il précise 2003 entre parenthèses. Je suppose.
Ah non, l'original. Donc,
Pas Disaster Artist.
Non seulement j'ai vu The Room, mais j'adore The Room et je pense que c'est un film que j'adore partager. Quand il y a quelqu'un qui a pas vu The Room, j'ai les yeux qui s'illuminent. Je dis attends. On va se faire un petit truc. Tu sais que ma fibre nanardeuse est
quand même de là à s'infliger le 1h15 de zone.
Alors non,
j'aime bien le super cut de 8 minutes.
C'est vrai que ça peut être un super cut, mais franchement, avoir la full expérience, avoir tout le truc et d'en parler, d'en discuter, c'est un film. À chaque fois que je le vois, je découvre une nouvelle couche de trucs que j'ai du mal à comprendre. Et je trouve ça touchant, quoi. C'est comme la rédaction d'un gamin de 12 ans qui se dit putain, j'écris l'œuvre de ma vie.
6 ans plutôt, non ?
Non, 12 ans. Mais
12 ans.
Transfert, mec. Ouais. Donc, The Room, j'adore The Room. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Et heureusement ou malheureusement pour lui, c'est qu'il est devenu un phénomène presque institutionnalisé. Un phénomène où on balance ses cuillères dans les trucs. Alors, c'est rigolo. Mais en même temps, je pense que c'est aussi la limite de l'exercice du nanar. C'est qu'en moment où tu es institutionnalisé, que tu as un acteur hollywoodien qui se refait une santé sur le dos d'un autre réalisateur et tout. À partir du moment où tu as toute une démarche un peu dégueulasse autour d'un truc qui était... Moi, j'aime bien la pureté du nanar, quoi. J'aime bien le Samurai Cop, tu vois.
Je crois bien Samurai
Cop. C'est pour ça
qu'on aime Battleship.
Voilà,
Battleship
est un nanar moderne, très bien. Je suis désolé. Quand les vieux monsieur ils se lèvent pour aller piloter l'USS Nimitz.
J'étais aux armes, tu vois.
Je comprends. Mais je comprends aussi que ça te parle.
C'est important, on en revient encore à Battleship, s'il vous plaît.
Donc voilà, j'aime bien The Room.
Il faut le caser au moins 5 fois par épisode.
J'aime moins le Disaster Artist.
Oui, j'avais cru comprendre. Et on ne peut que vous recommander le livre, par contre, Disaster Artist, qu'on a déjà recommandé ici même.
Qui ne raconte pas du tout la même chose que le film.
Et surtout de réécouter l'émission consacré à Disaster Artist où il y a la meilleure anecdote de l'histoire de nos ciné racontée par Lélo Jimmy Battista. Je n'en dis pas plus.
J'ai envie que tu me la racontes après.
Il vous la fera hors antenne si vous voulez bien. Daniel, il y a une seconde question pour toi et on va conclure dans très peu de temps. Adrien nous demande que tu nous parles de Batman Ninja.
Ah, c'est vrai que j'allais
poser la question.
C'est vrai que j'ai vu Batman Ninja. Eh bien, Batman Ninja, c'est la preuve qu'on peut faire des choses bien dans le DCU à partir du moment où on n'essaie pas de faire du DCU. C'est-à-dire, tous ces mecs-là, ils essaient de re-raconter. Tous les réalisateurs, ils débarquent sur Batman et ils se disent, ah, je vais re-raconter comment, il a, comment ses parents sont morts, son traumatisme, comment il a adopté Dick Grayson et comment ensuite... bah les steaks. Les Japonais, ils ont tout compris et ils l'ont fait exactement de la manière d'une vieille série Sentai qui s'appelle Amazing Spider-Man. Puisque en 76, si je me souviens bien, la Toei a eu la licence de Spider-Man et ils en ont fait une espèce de Bioman en fait. Ils en ont fait un Sentai, donc Spider-Man, Takuya, il se transforme en Spider-Man et puis il a un robot géant qui s'appelle Leopardon. Ça n'a aucun sens.
Génial.
Non, mais c'est absolument fabuleux, quoi. Et pendant des années, en plus, la Toei, t'imagines les droits, Marvel, ouais. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on a foutu.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ils ont empêché,
qui
que,
a
ça,
signé
ils
ça
ont empêché que ça se voit et maintenant ils assument complètement l'héritage. Donc, ils l'ont fait à la japonaise, c'est-à-dire ils ont respecté le matériel d'origine et ils l'ont poussé over 9000, comme on dit sur Internet. C'est littéralement Batman qui est transporté au Japon féodal. Et en même temps, Joker est aussi transporté. Ils sont tous transportés. Toute la Bat-Family, ils y sont aussi. Et c'est traité de manière assez respectueuse, puisque tu remarques que son fils, Damien, tu vois, il est accompagné d'un petit singe. Donc, il a son côté un peu j'aime les animaux. Et tu vois, il y a tout un truc, un rapport à leurs origines, à qui ils sont vraiment. Et je trouve que c'est assez fidèlement retranscrit en fait. Ils sont assez proches de leur personnage. Bruce Wayne par exemple, ils essayent de se faire passer, il met pas son costume de Batman pour traverser une ville féodale japonaise, mais en même temps il se déguise en moine Shinto, mais en même temps il se fait une tonsure avec l'emblème de Batman sur le crâne. Il y a plein de détails à hurler de rire. Et évidemment la fin, c'est une stunt fest de robots géants en fait. Et ils ont tous des robots géants. Il y a Poison Ivy qui a un robot géant, Penguin il a un robot géant, ils ont tous des robots géants. Et ça devient un fight gigantesque comme seul le Japon pouvait produire. Évidemment, c'est what the fuck, mais comme je disais au début, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui soit réussi, c'est de pas refaire tout le temps la même chose, mais de prendre le matériau de base, de prendre ce qu'il y a de mieux et d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Et voilà pourquoi c'est une des meilleures productions Batman de ces dernières années, que je recommande au même titre que Batman et Scooby-Doo. Le crossover qui est sorti, je crois, il y a quelques mois, il y a Batman Scooby-Doo. Et c'est génial parce que c'est pas le Batman que tu connais, c'est le Batman de Batman Brave and Bold.
Ah.
Donc, pour ton gamin, c'est génial. Hein. Ah, vraiment, c'est hilarant.
J'ai envie qu'il fasse des études supérieures quand même. Tu sais.
au pire, il finira comme moi, ce que je sais.
Bien
pas.
Ce que je dis.
mais du coup, c'est Batman qui embauche le Scooby Gang parce qu'il se dit j'ai besoin des plus grands détectives de Gotham.
Mais c'est parfait.
C'est à hurler de rire. Voilà, c'est le genre de truc que j'ai envie de voir. C'est parce que les gens ils disent ouais, on veut des Batman dramatiques. Excuse-moi, vous m'avez lancé sur Batman.
Je peux t'écouter.
Les gens veulent des Batman dramatiques et tout. Oui, c'est bien, mais il faut aussi des Batman pour ton fils. Il faut des Batman pour mon neveu. Il faut
des Lego Batman.
Il faut des Lego Batman. Oui. Voilà. Donc moi, je recommande Batman Ninja.
En plus, visuellement, ça a l'air assez jeune. C'est le film que j'ai envie de voir depuis une semaine. Là,
c'est du full 3D.
Chaud.
C'est du full 3D, mais c'est beau comme un Disney réfléchir en 3D. Quoi. c'est nawak. Vraiment, c'est super bien. Et ça sort. C'est sorti en VOD, je crois, aujourd'hui, et ça sort en DVD la semaine prochaine.
Oui, c'est ça. Ça sort tout prochainement en DVD. Une dernière question pour terminer. Vous allez tous répondre les uns les autres si vous avez un avis. Victor qui nous demande. Vous avez demandé plusieurs fois, donc on va lui répondre à Victor. Si on a un avis sur le potentiel renvoi de John Lasseter de Pixar. Je te pointe du doigt, Jim. Tu n'as pas d'avis. Très bien, Perrine.
C'est vraiment en question.
Apparemment, c'est vraiment en cours. Il y a un article dans le Hollywood Reporter.
Mais pour quelle raison?
Apparemment, parce qu'il faisait des câlins sexuels.
Ok.
Moi, j'ai pas suivi l'affaire. En fait, moi, j'étais restée au fait qu'il faisait des hugs trop longs. Donc, c'est vraiment le truc que j'ai pas suivi plus loin que ça.
C'est l'histoire.
J'en étais restée là, ouais. Ils ont trouvé d'autres trucs depuis.
Non.
À part
qu'il aime mieux faire la fête.
Mais même qu'il voit pas l'affaire de justice, et voilà.
Mais comment laisser la police faire son travail.
Voilà, laisser la police faire son travail. On n'a pas d'avis, on n'a pas tous les éléments de l'affaire. Mais dès qu'on les a, on revient sur cette histoire.
On a contacté notre service juridique pour qu'il nous envoie.
S'il a été vilain, c'est bien fait.
Et s'il a pas été vilain, c'est pas juste.
C'est le niveau de Justice League
de la justice. On est la Ligue de la Justice.
C'est vrai, la Ligue de la Justice du cinéma, c'est nous. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce No Ciné Club. Merci à Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Ta gueule ! Viens ici, sale. sale enculé!
Salaud!
Binge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.